Sur la France plus particulièrement, par rapport aux différentes, est-ce qu'il y a des zones qui sont plus, disons, vulnérables que d'autres? Enfin, au début, j'allais poser la question, est-ce qu'on est vulnérable en France? La réponse est oui, mais la question est de savoir sur quoi, concrètement, est-ce qu'il y a des zones qui sont plus vulnérables que d'autres? Et surtout, quels sont les systèmes qui sont les plus vulnérables dans ces, disons, j'imagine, je sais pas, je donne l'exemple, par exemple, d'une ville, on avait fait un échange avec Alexandre Florentin, donc sur Paris, Paris à 50 degrés. À l'époque, je remettrai le lien aussi. Est-ce que, bon, j'imagine que les villes sont impactées, mais est-ce qu'il y a d'autres types de régions, je sais pas, les industries, l'agriculture, etc., sur lesquelles il faut vraiment comprendre l'impact du changement climatique sur ces différents systèmes?
Ouais, je vais peut-être te donner quatre exemples, si
Ouais.
tu veux, pour de choses aussi qui sont un peu moins classiques.
Oh.
C'est certains territoires, notamment nos territoires, nos forêts, nos montagnes, nos outre-mer et nos littoraux, qui vont être touchés en fait par le changement climatique de façon beaucoup plus importante que d'autres typologies de territoires, parce qu'ils ont des caractéristiques de vulnérabilité particulières, notamment du fait de leur organisation. Un chiffre hyper important, on va commencer par les forêts.
Quand tu parles de l'organisation, ça veut dire quoi? Compte tenu de leur
Ah bah ouais,
organisation.
je vais donner des exemples.
Ouais.
C'est par exemple bah, l'usage de la montagne qui est très très canalisé sur une
Ok.
seule forme d'industrie hyper dépendante du niveau d'enneigement, bah, c'est le ski du coup, alors qu'on va avoir moins d'enneigement et du coup tu as des modalités de maladaptation, les canons à neige. Mais par exemple sur la question des forêts, bah, en France c'est assez dramatique parce que la santé de nos forêts se dégrade rapidement, la faute à un changement climatique qui va en fait beaucoup trop vite pour les écosystèmes. Nous, en tant qu'humains-humaines, on arrive à avoir de l'adaptation réactive tout de suite ou de s'organiser un peu différemment. Les écosystèmes n'ont pas ce choix-là. Les écosystèmes, ils sont, on va dire, si on fait un parallèle très maladroit avec les infrastructures, c'est pareil. Ils sont dimensionnés sur les conditions climatiques passées, en tout cas pour y vivre. Et donc, quand les conditions climatiques changent, eh ben, il y a un certain nombre d'écosystèmes qui vont mourir ou qui ne pourront pas s'adapter. Il faut savoir, par exemple, et c'est un chiffre très important, c'est qu'en une dizaine d'années, la capacité des forêts françaises à absorber du carbone a été divisée par deux. En fait, ça veut dire que la mortalité forestière a doublé en 10 ans en France. Pourquoi? Parce que les conditions climatiques ont changé de façon très importante et que aussi on a la question des déplacements de ravageurs. En fait, avec le changement climatique, vous avez des ravageurs qui vont remonter et donc des écosystèmes forestiers qui sont pas habitués à aller rencontrer ces ravageurs-là. Et donc, quand il y a le contact entre les deux, et ben ça peut décimer des pans entiers, des essences entières dans nos forêts. Donc les forêts françaises sont par exemple un écosystème extrêmement vulnérable au changement climatique. Il y a aussi une forme d'utilisation de la forêt française qui ressemble un peu à ce qu'on connaît en agriculture, qui la rend encore plus vulnérable. C'est la question des monocultures. Par exemple, en France, du fait de la mondialisation, pour l'agriculture, on s'est mis à être hyper spécialisé sur un type de production ou sur un petit nombre de types de production, par exemple le maïs. Ces productions sont homogènes génétiquement, ce qui fait que quand un ravageur passe, il ravage tout. Alors que quand vous avez une production qui est plus diverse génétiquement ou qui met plus différentes essences, et ben le ravageur, il peut pas sauter d'un point à un autre. Ces caractéristiques d'homogénéité, elles permettent des rendements très importants, par exemple pour le maïs, dans le cadre des conditions climatiques stables, mais quand c'est plus stable, c'est la catastrophe. Sur les forêts françaises, on est à un tournant, puisqu'en fait, il y a une modalité de plus en plus importante de considérer la forêt française comme une ressource en bois, et donc d'utiliser un certain nombre d'essences, comme le pin douglas, mettre la même essence partout, pour faire des coupes rases ensuite et alimenter l'industrie du bois et donc en fait avoir des forêts qui vont être encore plus vulnérables aux ravageurs ou aux conditions climatiques. Voilà. On pourrait revenir beaucoup plus longuement sur cette question de la forêt, mais je vais essayer de passer pour donner passer mes quatre exemples, passer sur la montagne. La montagne, il y a quelque chose de très important à connaître, c'est qu'en fait, le changement climatique, il va deux fois plus vite dans les territoires de montagne que dans les territoires plus classiques. En fait, dans les montagnes, on a quasi déjà dépassé le 2 degrés. D'accord. Et en fait, il y a un chiffre qui est important, c'est que pour un degré supplémentaire, c'est un mois d'enneigement en moins à 1500 mètres d'altitude. On estime par exemple aussi qu'en 2100, entre 70% et 90% des glaciers devraient disparaître. Et du coup, de ce fait, en plus, ces territoires de montagne, ils sont hyper dépendants d'une activité qui dépend de la neige, c'est le ski. Et l'industrie du ski, c'est en fait une des meilleures élèves de la classe pour la maladaptation. Parce que elle va nécessiter la construction de beaucoup, beaucoup d'habitats touristiques et donc d'artificialisation des sols dans ces territoires de montagne. Et puis, cette industrie du ski, elle va avoir recours à des mégabassines. Ces mégabassines, c'est les canons à neige. C'est exactement le même principe. On fait des réserves d'eau accaparées. Et ces réserves d'eau, ensuite, on va les utiliser pour enneiger les zones où on a un enneigement pas suffisant pour skier. Et donc, pour ces territoires de montagne, il va falloir qu'on se débrouille pour dépolariser fortement ces économies du ski, les reconvertir, adapter l'aménagement du territoire, sanctuariser aussi la ressource en eau et améliorer l'autonomie alimentaire. Troisième typologie de territoire, c'est les territoires littoraux. Les territoires littoraux sont face à l'aléa climatique, à l'aléa le plus compliqué, je pense, c'est l'aléa d'élévation du niveau de la mer. Pourquoi? Parce que l'élévation du niveau de la mer, c'est une dynamique qui est irréversible, c'est-à-dire on va avoir un niveau de la mer qui va s'élever même pour encore plusieurs siècles, du fait de dynamiques, notamment le fait que l'eau chaude elle passe en dessous dans la circulation et donc en fait la dilatation thermique va se propager et puis la fonte d'un certain nombre de glaciers et de ce type d'écosystème qui en fait ont des niveaux de seuil et donc une fois qu'ils sont déclenchés, bah, ils vont fondre jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus et donc l'élévation du niveau de la mer est alimentée. Et à côté de ça, on a une dynamique complètement contraire à la résilience, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de concentration d'habitation sur ces zones littorales parce que bah, nos villes sont constituées sur les littoraux et parce qu'il y a aussi une industrie touristique qui a besoin de forte affluence sur ces littoraux. Et donc en fait, c'est des territoires qui sont particulièrement sensibles parce que avec l'élévation du niveau de la mer, on aura des intrusions marines plus importantes, des submersions plus importantes. Ces submersions, elles peuvent mettre en danger les populations, mais elles peuvent aussi avoir des conséquences sur l'autonomie alimentaire et l'autonomie hydrique de ces régions. Notamment, bah, quand l'eau de mer rentre dans les terres, elle salinise les sols et les ressources d'eau de surface, mais surtout d'eau souterraine, et donc ça devient impropre à l'agriculture. Et également, il y a des questions très très prégnantes sur l'habitabilité de ces territoires et le fait de rajouter, bah, soit des digues qui sont la solution de maladaptation quasi par excellence. Et même des écosystèmes qui permettent de réduire les vagues. Le problème, c'est que la dynamique d'élévation du niveau de la mer, elle est engrammée pour un certain nombre d'années. Et également, l'élévation du niveau de la mer marche par seuil, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on se prépare à environ une élévation du niveau de la mer à la fin du siècle de 1 mètre. Ça peut aller très vite à 1,50 m, 2 mètres, à cause de dynamiques non linéaires sur lesquelles je peux revenir, mais je pense que c'est un peu long à expliquer. Mais par exemple, nos voisins hollandais, belges ou anglais se préparent à des niveaux d'élévation de la mer de plus de 2 mètres parce qu'il y a des scénarios que le GIEC appelle peu probables, mais à fort impact, qui peuvent mener à ce type d'élévation. Notamment si on dépasse un certain nombre de seuils. Plus on ira loin dans le réchauffement, plus on aura de chances de dépasser ces seuils-là, que les scientifiques ont beaucoup de mal à positionner correctement. De même, et pour terminer sur le quatrième exemple, les territoires d'outre-mer sont particulièrement vulnérables parce que ce sont les territoires les plus pauvres de France, d'accord? Et ce sont des territoires où, en fait, on a aussi énormément de populations qui vivent sur les littoraux. Et du coup, ils sont menacés par l'élévation du niveau de la mer, mais c'est aussi des territoires qui sont en zone cyclonique. Et le changement climatique va avoir pour conséquence d'augmenter au moins de ce qu'on connaît l'intensité de ces cyclones. Les cyclones, ça marche comment? C'est simplement une évaporation d'eau de mer dans parce qu'elle est trop chaude, et ensuite du coup une accumulation de vapeur d'eau à un endroit, et ensuite le vent qui va la pousser d'un côté, et donc avec le changement climatique vous augmentez l'évaporation et donc vous augmentez en théorie l'intensité de ces cyclones. Il y a une caractéristique de vulnérabilité fondamentale de ces territoires d'outre-mer, en plus de la pauvreté, mais ça va avec, c'est le mal logement. Vu qu'on est dans des territoires très pauvres, il y a beaucoup d'habitats qu'on appelle informels. Il y a environ, est-ce que j'ai le chiffre sous les yeux, 20% je crois des habitations en Outre-mer qui vivent avec un toit percé. Et donc bah, vous imaginez bien que dans le cadre d'événements climatiques extrêmes, c'est extrêmement, les conséquences sont très graves. Ces habitats informels aussi ils participent à l'artificialisation des sols dans des territoires qui sont les plus riches en biodiversité. Et il y a une dépendance très forte à deux choses, le tourisme et l'importation de produits agricoles. Même chose, événements climatiques extrêmes ou élévation du niveau de la mer égale salinisation des ressources, salinisation des champs, etc. Et puis remise en question aussi des capacités d'échange, donc les routes maritimes, par la submersion des ports, etc. Et donc une autonomie alimentaire qui devient de plus en plus précaire. Donc voilà, c'est les quatre territoires que je voulais donner un peu comme exemple de territoires particulièrement vulnérables au changement climatique. Mais ensuite, tous les territoires, en fait, sont concernés à divers degrés. L'idée, c'est toujours de bien prioriser les aléas, les mêmes matériels et avoir une description précise sur chaque aléa.